Bienvenue sur les ondes pataphysiques. Les ondes pataphysiques, en hommage au poète et cycliste Alfred Jarry, né il y a exactement 150 ans, le père du Père Ubu, celui qui a un petit zizi et un gros cul. Les ondes pataphysiques vont rendre hommage jusqu'au mois de décembre aux poètes héritiers d'Alfred Jarry. Parmi les nombreux héritiers littéraires d'Alfred Jarry, nous avons célébré au mois de septembre Fernando Arrabal, poète espagnol. Ce mois-ci, nous accueillons sur nos ondes pataphysiques Boris Vian. Le mois prochain, en novembre, ce sera Eugène Ionesco et en décembre, Jacques Prévert. Faisons connaissance avec Boris Vian. Il est né en 1920 et il se savait destiné à une fin précoce, dès l'âge de 15 ans. Il est mort en 1959, à l'âge de 39 ans. Il aura été un artiste polyvalent, un musicien de jazz, chanteur, peintre, comédien. Il était ingénieur de formation. Il se fait connaître d'abord dans les caves à jazz de Saint-Germain-des-Prés. Il est vulgarisateur de jazz. C'est un fantaisiste qui veut s'amuser, faire rire les autres. Il joue de la trompette sans être un grand musicien. Deux livres à succès et une chanson polémique vont faire bondir sa carrière. Publié en 1947, c'est « L'écume des jours », le livre le plus connu de Boris Vian. Et puis, un roman policier, « J'irai cracher sur vos tombes ». Il publie ce livre sous le pseudonyme de Vernon Sullivan. La presse de l'époque affirme que « J'irai cracher sur vos tombes » incite au meurtre. Pourquoi ? Eh bien parce qu'un exemplaire aurait été trouvé à côté de la victime d'un meurtre. Et Boris Vian fait face à des poursuites judiciaires qui lui coûteront cher. Mais c'est en 1954 que sa chanson « Le déserteur » choque par ses propos antimilitaristes. Il l'a écrite en pleine guerre d'Algérie. Elle est interdite à la radio. Et dans sa version non censurée, elle demande aux généraux d'aller à la guerre afin d'empêcher que les jeunes aillent s'y faire tuer.
Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la fête, je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle est dedans sa tombe et se moque des bombes et se moque des vers. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme, passer. Demain de bon matin, je fermerai ma porte au nez des années mortes. J'irai sur les chemins. Je mendierai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je dirai aux gens: refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre. Vous êtes bon apôtre, monsieur le président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer.
Boris Vian connaîtra une mort surréaliste. En 1959, il meurt alors qu'il assiste à la première du film « J'irai cracher sur vos tombes », une adaptation de son livre réalisé sans son consentement. À cette époque, c'est un écrivain déchu de son vivant. Mais il nous laisse en héritage 10 romans et plus de 400 chansons. Boris Vian demeure le nom synonyme de Saint-Germain-des-Prés des années d'après-guerre.
La vie, c'est comme une dent. D'abord, on n'y a pas pensé. On s'est contenté de mâcher. Et puis, ça se gâte soudain. Ça vous fait mal. Et on et on la soigne, et les soucis. Et pour qu'on soit vraiment guéri, il faut vous l'arracher, la vie.
Avoir des fourmis dans les jambes, cette expression populaire vous dit quelque chose. Eh bien, avoir des fourmis, ce petit jeu verbal, c'est ce qui a inspiré cette nouvelle, l'une des premières de Boris Vian, écrite sans doute entre 45 et 47. Cette première nouvelle, Les fourmis, paraît en octobre 1947, c'est-à-dire quelque temps avant la naissance du Collège de Pataphysique. Elle est inspirée des films d'actualité sur le débarquement, des films projetés par les Allemands aux fins de propagande et les récits des GIs parvenus à Paris. En ces jours tristes où les bombes tombent sur Gaza et sur l'Ukraine, il est bon d'écouter un poète nous parler de la guerre avec dérision. Les fourmis de Boris Vian. On est arrivé ce matin et on n'a pas été bien reçu, car il n'y avait personne sur la plage. Que des tas de types morts ou des tas de morceaux de types, de tanks et de camions démolis. Il venait des balles d'un peu partout et je n'aime pas ce désordre pour le plaisir. On a sauté dans l'eau, mais elle était plus profonde qu'elle n'en avait l'air. Et j'ai glissé sur une boîte de conserve. Le gars qui était juste derrière moi a eu les trois quarts de la figure emportée par le pruneau qui arrivait. Et j'ai gardé la boîte de conserve en souvenir. J'ai mis les morceaux de sa figure dans mon casque.
et je lui ai donné. Il est reparti se faire soigner, mais il a l'air d'avoir pris le mauvais chemin parce qu'il est entré dans l'eau jusqu'à ce qu'il n'ait plus pied. Et je ne crois pas qu'il y voie suffisamment au fond pour ne pas se perdre. J'ai couru ensuite dans le bon sens et je suis arrivé juste pour recevoir une jambe en pleine figure. J'ai essayé d'engueuler le type, mais la mine n'en avait laissé que des morceaux pas pratiques à manœuvrer. Alors, j'ai ignoré son geste. J'ai continué. 10 mètres plus loin, je rejoins les 3 autres gars qui étaient derrière un bloc de béton et qui tiraient sur un coin de mur plus haut. Ils étaient en sueur et trempés d'eau. Et je devais être comme eux. Alors, je me suis agenouillé et j'ai tiré aussi. Le lieutenant est revenu. Il tenait sa tête à 2 mains et ça coulait rouge de sa bouche. Il n'avait pas l'air content. Et il a vite été s'étendre sur le sable, la bouche ouverte et les bras en avant. Il a dû salir le sable pas mal. C'était un des seuls coins qui restait propre. De là, notre bateau échoué avait l'air d'abord complètement idiot. Et puis, il n'a même plus l'air d'un bateau quand les 2 obus sont tombés dessus. Ça ne m'a pas plu, parce qu'il restait encore 2 amis dedans, avec les balles reçues en se levant pour sauter. J'ai tapé sur l'épaule des 3 qui tiraient avec moi et je leur ai dit « Venez, allons-y ». Bien entendu, je les ai fait passer d'abord. Et j'ai eu le nez creux parce que le premier et le second ont été descendus par 2 autres qui nous canardaient. Et il en restait seulement un devant moi. Le pauvre vieux, il n'a pas eu de veine. Sitôt qu'il s'est débarrassé du plus mauvais, l'autre a juste eu le temps de le tuer avant que je m'occupe de lui. Ces 2 salauds, derrière le coin de mur, ils avaient une mitrailleuse et des tas de cartouches. Je l'ai orienté dans l'autre sens et j'ai appuyé. Mais j'ai vite arrêté parce que ça me cassait les oreilles. Et aussi, elles venaient de s'enrayer. Elles doivent être réglées pour ne pas tirer dans le mauvais sens. Là, j'étais à peu près tranquille. Du haut de la plage, on pouvait profiter de la vue. Sur la mer, ça fumait dans tous les coins et l'eau jaillissait de très haut. On voyait aussi les éclairs des salves des gros cuirassés et leurs obus passaient au-dessus de la tête avec un drôle de bruit sourd, comme un cylindre de sons graves forés dans l'air. Le capitaine est arrivé. On restait juste 11. Il a dit que c'était pas beaucoup, mais qu'on se débrouillerait comme ça. Plus tard, on a été complété. Pour l'instant, il nous a fait creuser des trous pour dormir. Oui, pour dormir, je pensais. Mais non, il a fallu qu'on s'y mette et qu'on continue à tirer. Heureusement, ça s'éclaircissait. Il en débarquait maintenant de grosses fournées des bateaux. Mais les poissons leur filaient entre les jambes pour se venger du remue-ménage. Et la plupart tombaient dans l'eau et se relevaient en râlant comme des perdus. Certains ne se relevaient pas et partaient en flottant avec les vagues. Et le capitaine nous a dit aussitôt de neutraliser le nid de mitrailleuse qui venait de recommencer à taper en progressant derrière le tank. on s'est mis derrière le tank. Moi, le dernier, parce que je ne me fie pas beaucoup aux freins de ces engins-là. C'est plus commode de marcher derrière un tank tout de même, parce que on n'a plus besoin de s'empêtrer dans les barbelés et les piquets tombent tout seuls. Mais je n'aimais pas sa façon d'écrabouiller les cadavres avec une sorte de bruit qu'on a du mal à se rappeler. Sur le moment, c'est assez caractéristique. Au bout de 3 minutes, il a sauté sur une mine et s'est mis à brûler. 2 des types n'ont pas pu sortir, et le 3e a pu, mais il restait un de ses pieds dans le tank, et je ne sais pas s'il s'en est aperçu avant de mourir. Enfin, 2 de ses obus étaient déjà tombés sur le nid de mitrailleuse en cassant les œufs et aussi les bonshommes. Ceux qui débarquaient ont trouvé une amélioration, mais alors une batterie anti-char s'est mise à cracher à son tour. Et il en est tombé au moins 20 dans l'eau. Moi, je me suis mis à plat ventre. De ma place, je les voyais tirer en me penchant un peu. La carcasse du tank qui flambait me protégeait un peu et j'ai visé soigneusement. Le pointeur est tombé en se tortillant très fort. J'avais dû taper un peu trop bas, mais je n'ai pas pu l'achever. Il fallait d'abord que je descende les 3 autres. J'ai eu du mal. Heureusement, le bruit du tank qui flambait m'a empêché de les entendre beugler. J'avais mal tué le 3e aussi. Du reste, ça continuait à sauter et à fumer de tous les côtés. J'ai frotté mes yeux un bon coup pour y voir mieux parce que la sueur m'empêchait de voir, et le capitaine est revenu. Il ne se servait que de son bras gauche. « Pouvez-vous me bander le bras droit, très serré, autour du corps ?» J'ai dit oui, et j'ai commencé à l'entortiller avec des pansements, et puis il a quitté le sol des 2 pieds à la fois. Il m'est tombé dessus parce qu'il était arrivé une grenade derrière lui. Il s'est raidi instantanément. Il paraît que ça arrive quand on meurt très fatigué. En tout cas, c'était plus commode pour l'enlever de sur moi. Et puis après, j'ai dû m'endormir. Et quand je me suis réveillé, le bruit venait de plus loin et un de ces types, avec des croix rouges tout autour du casque, me servait du café. Après, on est parti vers l'intérieur. On a essayé de mettre en pratique les conseils des instructeurs et les choses qu'on a apprises aux manœuvres. La Jeep de Mike est revenue tout à l'heure. C'est Fred qui conduisait et Mike était en 2 morceaux. Avec Mike, ils avaient rencontré un fil de fer. On était en train d'équiper les autres bagnoles avec une lame d'acier à l'avant parce qu'il fait trop chaud pour qu'on roule avec les pare-brises relevés. Ça crache encore dans tous les coins et on fait patrouille sur patrouille. Je crois qu'on a avancé un peu trop vite et on a du mal à garder le contact avec le ravitaillement. Ils nous ont bousillé au moins 9 chars ce matin. Et il est arrivé une drôle d'histoire. Le bazooka d'un type est parti avec la fusée et lui, il restait accroché derrière, par la bretelle. Il a attendu d'être à 40 mètres et il est descendu en parachute. Je crois qu'on va être obligé de demander du renfort parce que je viens d'entendre comme un grand bruit de sécateur. Ils ont dû nous couper de nos arrières. Ça me rappelle, il y a 6 mois, quand ils venaient de nous couper de nos arrières. Nous devons être actuellement complètement encerclés, mais ce n'est plus l'été. Heureusement, il nous reste de quoi manger, et il y a des munitions. Il faut qu'on se relaie toutes les 2 heures pour monter la garde. Ça devient fatigant. Les autres prennent les uniformes des types de chez nous, qu'ils font prisonniers, et se mettent à s'habiller comme nous. On doit se méfier. Avec tout ça, on n'a plus de lumière électrique. On reçoit des obus sur la figure des 4 côtés à la fois. Pour le moment, on tâche de reprendre le contact avec l'arrière. Il faut qu'ils nous envoient des avions. Nous commençons à manquer de cigarettes. Il y a du bruit dehors. Il doit se préparer quelque chose. On n'a même plus le temps de retirer son casque. Il se préparait bien quelque chose. 4 chars sont arrivés jusqu'ici. J'ai vu le premier en sortant. Il s'est arrêté aussitôt. Une grenade avait démoli une de ses chenilles. Elle s'est déroulée d'un coup avec un épouvantable bruit de ferraille. Mais le canon du char ne s'est pas enrayé pour si peu. On a pris un lance-flammes. Bon, ce qui est embêtant avec ce système-là, c'est qu'il faut fendre la coupole du char avant de se servir du lance-flammes. Sans ça, il éclate, hein, comme les châtaignes. Et les types à l'intérieur sont mal cuits. À 3, on a été fendre la coupole avec une scie à métaux. Mais 2 autres chars arrivaient. Et il a bien fallu le faire sauter sans le fendre. Le second a sauté aussi et le troisième a fait 2 demi-tours. Mais c'était une feinte parce qu'il était arrivé en marche arrière. Aussi, ça nous étonnait un peu de le voir tirer sur les types qui le suivaient. Comme cadeau d'anniversaire, il nous a envoyé 12 obus de 88. Ah, il faudra reconstruire la maison si on veut s'en resservir. Mais cela ira plus vite d'en prendre une autre. On a fini par se débarrasser de ce 3e char en chargeant un bazooka avec de la poudre à éternuer. Et ceux à l'intérieur se sont tellement cognés le crâne sur le blindage qu'on n'a sorti que des cadavres. Seul le conducteur vivait encore un peu, mais il s'était pris la tête dans le volant sans pouvoir la retirer. Alors, plutôt que d'abîmer le char qui n'avait rien, on a coupé la tête du type. Derrière le char, des motocyclistes avec des fusils mitrailleurs se sont amenés en faisant un foin du diable. Mais on a réussi à en venir à bout grâce à une vieille moissonneuse-lieuse. Pendant ce temps-là, il nous arrivait aussi sur la tête quelques bombes et même un avion que notre DCA venait d'abattre sans le faire exprès, parce qu'en principe, elle tirait sur les chars. Nous avons perdu dans la compagnie Simon, Morton, Buck et PC. Il nous reste les autres et un bras de Slim. Toujours encerclé. Il pleut. Il pleut maintenant sans arrêt depuis 2 jours. Le toit n'a plus qu'une tuile sur 2. Mais les gouttes tombent juste où il faut et nous ne sommes pas vraiment mouillés. Nous ne savons absolument pas combien de temps ça va encore durer. Toujours des patrouilles, mais c'est assez difficile de regarder dans un périscope sans entraînement. Et c'est fatigant de rester avec de la boue par-dessus la tête plus d'un quart d'heure. Nous avons rencontré hier une autre patrouille. Nous ne savions pas si c'était les nôtres ou ceux d'en face. Mais sous la boue, on ne risquait rien à tirer parce qu'il est impossible de se faire mal. Les fusils explosent tout de suite. On a tout essayé pour se débarrasser de cette boue. On a versé de l'essence dessus. En brûlant, ça fait sécher. Mais après, on se cuit les pieds en passant dessus. La vraie solution consiste à creuser jusqu'à la terre ferme. Mais c'est encore plus difficile de faire des patrouilles dans la terre ferme que dans la boue. On finirait par s'en accommoder tant bien que mal. L'ennuyeux est qu'il en est venu tant qu'elle se met à avoir des marées. Actuellement, ça va. Elle est à la barrière. Malheureusement, tout à l'heure, elle remontera de nouveau au premier étage et ça, c'est désagréable. Il m'est arrivé ce matin une sale aventure. J'étais sous le hangar, derrière la baraque, en train de préparer une bonne plaisanterie aux deux types que l'on voit très bien à la jumelle en train d'essayer de nous repérer. J'avais un petit mortier de 81. Je l'arrangeais dans une voiture d'enfant. Johnny devait se camoufler en paysanne pour la pousser. Mais d'abord, le mortier m'est tombé sur le pied. Ça, ce n'est rien d'autre que ce qui m'arrive tout le temps en ce moment. Et ensuite, le coup est parti pendant que je m'étalais en tenant mon pied. Et il est allé éclater un de ces machins à ailettes au deuxième étage, juste dans le piano du capitaine qui était en train de jouer l'air de Jada. Ça fait un bruit d'enfer. Le piano est démoli. Mais le plus embêtant, le capitaine n'avait rien, en tout cas rien de suffisant pour l'empêcher de taper dur. Heureusement, tout de suite après, est arrivé un 88 dans la même chambre. Il n'a pas pensé qu'il s'était repéré sur la fumée du premier coup et il m'a remercié en disant que je lui avais sauvé la vie en le faisant descendre. Pour moi, ça n'avait plus aucun intérêt à cause de mes deux dents cassées, aussi parce que toutes ces bouteilles étaient juste sous le piano. On est de plus en plus encerclés. Ça nous dégringole dessus sans arrêt. Heureusement, le temps commence à se dégager. Il ne pleut guère que 9 heures sur 12. D'ici un mois, on peut compter sur du renfort par avion. Il nous reste 3 jours de vivre. Les avions commencent à nous lancer des machins par parachute. J'ai eu une déception en ouvrant le premier. Il y avait dedans une flopée de médicaments. Je les ai échangés au docteur contre 2 barres de chocolat aux noisettes. Du bon, hein ? Pas cette saloperie des rations. Et un demi-flasque de cognac. Mais il s'est rattrapé en m'arrangeant mon pied écrabouillé. J'ai dû lui rendre le cognac. Sans ça, je n'aurais plus qu'un pied à l'heure qu'il est. Ça se met de nouveau à ronfler là-haut. Il y a une petite éclaircie. Ah, il nous envoie encore des parachutes, mais cette fois, ce sont des types, on dirait. Ouais, c'était bien des types. Il y en a 2 rigolos. Il paraît qu'ils ont passé tout le trajet à se faire des prises de judo, à se flanquer des marrons, à se rouler sous tous les sièges. Ils ont sauté en même temps et ils ont joué à se couper au couteau les cordes de leur parachute. Malheureusement, le vent les a séparés. Alors ils ont été obligés de continuer à coups de fusil. J'ai rarement vu d'aussi bons tireurs. Tout de suite, on est en train de les enterrer parce qu'ils sont tombés d'un peu haut. Bon, on est désencerclés. Nos chars sont revenus et les autres n'ont pas tenu le coup. Je n'ai pas pu me battre sérieusement à cause de mon pied, mais j'ai encouragé les copains. C'était très excitant. De la fenêtre, je voyais bien, et les parachutistes arrivés hier se démenaient comme des diables. J'ai maintenant un foulard en soie de parachute jaune et vert sur fond marron. Ça va bien avec la couleur de ma barbe. Mais demain, je vais me raser pour la permission de convalescence. J'étais tellement excité que j'ai balancé une brique sur la tête de Johnny qui venait d'en rater un. Et actuellement, j'ai deux nouvelles dents de moi. Cette guerre ne vaut rien pour les dents. L'habitude émousse les impressions. J'ai dit ça à Huguette. Elles ont de ces noms, Huguette, en dansant avec elle au centre de la Croix-Rouge. Et elle a répliqué « Vous êtes un héros ». Mais je n'ai pas eu le temps de trouver une réponse fine parce que Mac m'a tapé sur l'épaule, alors j'ai dû la lui laisser. Les autres parlaient mal et cet orchestre jouait beaucoup trop vite. Mon pied... Oh, mon pied me tracasse encore un peu, mais dans 15 jours, c'est fini, on repart. Je me suis rabattu sur une fille de chez nous, mais le drap d'uniforme, c'est trop épais. Ça émousse aussi les impressions. Il y a beaucoup de filles ici. Elles comprennent tout de même ce qu'on leur dit, et ça m'a fait rougir. Mais... il n'y a pas grand-chose à faire avec elle. J'en suis sorti. J'en ai trouvé tout de suite beaucoup d'autres. Pas le même genre, plus compréhensives. Mais c'est 500 francs minimum encore que... c'est parce que je suis blessé. C'est drôle, celles-là ont l'accent allemand. Après, j'ai perdu Mac. Et j'ai bu beaucoup de cognac. Ce matin, j'ai horriblement mal à la tête, à l'endroit d'où le MP a tapé. Je n'ai plus d'argent, parce qu'à la fin, j'ai acheté des cigarettes françaises à un officier anglais. Oh, je les ai sentis passer. Je viens de les jeter. C'est une chose dégoûtante. Il a eu raison de s'en débarrasser. Quand vous sortez des magasins de la Croix-Rouge avec un carton pour mettre les cigarettes, le savon, les sucreries et les journaux, ils vous suivent des yeux dans la rue. Et je ne comprends pas pourquoi. Car ils vendent sûrement leur cognac assez cher pour pouvoir s'en acheter aussi. Et leurs femmes ne sont pas données non plus. Mon pied était presque tout à fait guéri. Je ne crois pas rester encore longtemps ici. J'ai vendu les cigarettes pour pouvoir sortir un peu et j'ai ensuite tapé Mac, mais il ne les lâche pas facilement. Je commence à m'embêter. Je vais ce soir au cinéma avec Jacqueline. J'ai rencontré celle-là hier soir au club. Mais je crois qu'elle n'est pas intelligente parce qu'elle enlève ma main... toutes les fois, elle ne bouge pas du tout en dansant. Ces soldats d'ici m'horripilent. Ils sont trop débraillés. Il n'y en a pas deux qui portent le même uniforme. Enfin, il n'y a rien à faire qu'à attendre le soir. De nouveau là. Tout de même, on s'embêtait moins en ville. On avance très lentement. Chaque fois qu'on a fini la préparation d'artillerie, on envoie une patrouille et chaque fois, un des types de la patrouille revient, amoché par un tireur isolé. Alors, on recommence la préparation d'artillerie, on envoie les avions. Ils démolissent tout. Et 2 minutes après, les tireurs isolés commencent à tirer. En ce moment, Les avions reviennent. J'en compte 72. Ce ne sont pas de très gros avions, mais le village est petit. D'ici, on voit les bombes tomber en spirale, et cela fait un bruit un peu étouffé avec de bonnes colonnes de poussière. On va repartir à l'attaque, mais il faut d'abord envoyer une patrouille. Bien ma veine, j'en suis. Il y a à peu près 1,5 km à faire à pied. Et je n'aime pas marcher si longtemps. Mais dans cette guerre, on ne nous demande jamais de choisir. Nous nous tassons derrière les gravats des premières maisons, et je crois que d'un bout à l'autre du village, il n'en reste pas une seule debout. Il n'a pas l'air de rester beaucoup d'habitants non plus. Et ceux que nous voyons font une drôle de tête quand ils l'ont conservé. Mais ils devraient comprendre que nous ne pouvons pas risquer de perdre des hommes pour les sauver avec leur maison. Les trois quarts du temps, ce sont de très vieilles maisons, sans intérêt. Et aussi, c'est le seul moyen pour eux de se débarrasser des autres. Ça, d'ailleurs, ils le comprennent en général, quoique certains pensent que ce n'est pas le seul moyen. Après tout, ça les regarde. Et ils tenaient peut-être à leur maison, mais sûrement moins dans l'état où elles sont maintenant. Je continue ma patrouille. Je suis encore le dernier, c'est plus prudent. Et le premier vient de tomber dans un trou de bombe plein d'eau. Il en sort avec des sangsues plein son sac. Il a aussi ramené un gros poisson, tout ahuri. En rentrant, Mac lui a appris à faire le beau. Et il n'aime pas le chewing-gum. Je viens de recevoir une lettre de Jacqueline. Elle a dû la confier à un autre type pour la mettre à la poste, car elle était dans une de nos enveloppes. Vraiment, c'est une fille bizarre. Mais probablement, toutes les filles ont des idées pas ordinaires. Nous avons reculé un peu depuis hier, mais demain, nous avançons de nouveau. Toujours les mêmes villages complètement démolis. Ça vous donne le cafard. On a trouvé une radio toute neuve. Ils sont en train de l'essayer. Je ne sais pas si réellement on peut remplacer une lampe par un morceau de bougie. Je pense que oui. Je l'entends jouer « Chatukanunga, Chatukanunga » et je l'ai dansé avec Jacqueline un peu avant de partir de là-bas. Je pense que je vais lui répondre si j'ai encore du temps. Ah, maintenant c'est Spike Jones. J'aime cette musique. Ouais, j'aime aussi celle-là. Et je voudrais bien que tout soit fini pour aller m'acheter une cravate civile avec des raies bleues et jaunes. On repart tout à l'heure. De nouveau, nous sommes tout près du front et des obus se mettent à arriver. Il pleut. Il ne fait pas très froid. La Jeep marche bien. Nous allons en descendre pour continuer à pied. Il paraît que ça commence à sentir la faim. Je ne sais pas à quoi elle voit ça, mais je voudrais tâcher de m'en sortir le plus commodément possible. Il y a encore des coins où on se fait accrocher dur. On ne peut pas prévoir comment ça va être. Dans 15 jours, j'ai une nouvelle permission. J'ai écrit à Jacqueline de m'attendre. J'ai peut-être eu tort de le faire. Il ne faut pas se laisser prendre. Je suis toujours debout sur la mine. Nous étions partis ce matin en patrouille et je marchais derrière, comme d'habitude. Ils sont tous passés à côté, mais j'ai senti le déclic sous mon pied. Je me suis arrêté net. Elle n'éclate que quand on retire le pied. J'ai lancé aux autres ce que j'avais dans les poches et je leur ai dit de s'en aller. je suis tout seul. Je devrais attendre qu'ils reviennent, mais je leur ai dit de ne pas revenir. Je pourrais essayer de me jeter à plat ventre, mais j'ai horreur de vivre sans jambes. Je n'ai gardé que mon carnet et le crayon. Je vais les lancer avant de changer de jambes. Et il faut absolument que je le fasse parce que j'en ai assez de la guerre et parce qu'il me vient des fourmis.
Vous venez d'entendre la nouvelle de Boris Vian, Les fourmis. Le mois prochain, nous avons rendez-vous avec Eugène Ionesco et son célèbre rhinocéros. Nous vous souhaitons une belle rencontre avec le Père Ubu et que la pâtée physique vous accompagne.